Bismillah ve elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du. Je suis désolé comme on a commencé un peu tard, là on n'a pas eu le temps de finir la partie du cours que j'aurais aimé finir aujourd'hui. Mais inshallah, la semaine prochaine à 13h, donc le cours à 13h inshallah ta'ala. Comme je vous ai dit, la méthodologie c'est qu'au début de chaque cours on va poser quelques questions, à la fin de chaque cours aussi, comme révision et des points qui sont importants d'apprendre. Donc juste poser quelques questions comme ça, c'est si on connaît, alhamdoulilah, si on ne connaît pas, alhamdoulilah, on apprend aussi. Quelques points que j'ai rappelés pendant le cours. Celui qui a écrit cette épître, donc ce grand savant, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, est mort en quelle année ?
1206.
Ahsan. En l'année 1206, après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, comme je vous ai dit, très important de connaître les dates importantes et les dates de mort des grands savants de cette communauté. On a dit concernant el baraka, donc la bénédiction. C'est un mot qu'on a l'habitude d'entendre, el baraka, un tel mubarak, mubarak alayk, Allahumma barik. El baraka, qu'est-ce que ça veut dire ? Ahsan. Le bien en abondance, mais avec quelque chose en plus. Ahsan. Thubutuhu wa dawamu. C'est-à-dire le fait que ce bien qui est abondant perdure. Lorsque tu demandes à Allah Azzawajal qu'il accorde le baraka à un tel, barakallahu fik, qu'il mette le baraka en toi ou sur toi, tu demandes à Allah Azzawajal qu'il lui accorde beaucoup de bien, du bien en abondance, et le fait que ce bien perdure. Al-Baraka, un mot qu'on a l'habitude d'entendre, mais peut-être qu'on ne saisit pas très bien. On a dit aussi Al-Hanif. Al-Hanifiyya, qu'est-ce que Al-Hanifiyya ? Qu'est-ce que Al-Hanifiyya, Saïd ? Ahsan. Al-Milla, la religion d'Ibrahim alayhi salam. Al-Hanifiyya. Et on dit que Al-Hanif, donc celui qui pratique Al-Hanifiyya, quel est-il ? Qui est Al-Hanif ? Ahmadou. Ahsan. En français, Salim.
En français,
ouais. Non. طيب, en arabe, al-muqbilu ala Allah ou ila Allah, ou al-mu'rid amman siwa. C'est-à-dire le fait d'aller vers Allah, tabaraka wa ta'ala, celui qui va vers Allah azza wa jal, on a dit bi qalbihi, avec son cœur, bi a'malihi, avec ses œuvres, bi nawaya, avec ses intentions. L'ensemble de son être va vers Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans associé, ou al-mu'rid amman siwa, c'est-à-dire le fait de se détourner d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc une personne qui va de tout son être vers Allah azza wa jal et qui se détourne d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui-là, al-hanif, celui qui pratique al-hanifiyya, millata Ibrahim, c'est-à-dire la religion de Ibrahim, celle que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc à nous de suivre cette religion que Allah azza wa jalla nous a ordonné de suivre, al-hanifiyya. Une dernière question par rapport au cours, une question qui est très très importante, ayyuhal ikhwa, al-wali. Qu'est-ce que al-wali? Quand on dit al-wali, comme dans ce verset de Surat Yunus où ils ont traduit comme le bien-aimé, celui qu'on dira l'allié ou le bien-aimé, car comme nous avons vu, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab a fait ce dua pour la personne qui lit ce livre ou qui l'étudie, an yatawallak, que Allah Azza wa Jalla il te prenne comme allié, fid dunya wal akhirah. Qu'est-ce que al-wali? On entend souvent un tel c'est le wali, wali Allah, etc. Ça, qu'est-ce que le wali?
C'est celui qui craint,
qui est pieux. C'est moi-même. Donc le croyant et qui a la crainte pieuse d'Allah Azza wa Jal. Donc, al-mu'min, al-taqi. Al-mu'min, al-taqi. C'est al-mu'min, le croyant. Al-taqi, comme ils ont l'habitude de traduire, al-taqwa, c'est-à-dire la crainte révérentielle ou la piété. Celui-là, al-wali. Pas quelqu'un qui a certaines caractéristiques, certains attributs que certaines personnes peuvent lui donner. Simplement, le croyant, Inch'Allah, l'ensemble d'entre nous, faisons partie des croyants, Inch'Allah. Et At-Taqi, celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala. Celui-là est الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سورة يونس le verset numéro 62 et numéro 63 de sourate Yunus, la sourate numéro 10. Ahsan, jazakallahu khair. Et Al-Wali, malheureusement, c'est une chose qui est mal comprise par beaucoup de gens. Nous voyons que dans beaucoup de pays, très malheureusement, ils prennent un tel ou un tel comme Wali. Et bien souvent, cette appellation est donnée à des gens qui sont morts, qui sont dans des mausolées sur qui on a bâti, ou sur leur tombe on a bâti des mausolées, ou qui sont dans certains pays rentrés dans des mosquées, et les gens se dirigent vers ces mosquées, parfois pour adorer Al-Wali, parfois pour adorer Al-Wali. Comment pour adorer Al-Wali? Des musulmans qui vont adorer l'adoration, parmi la plus grande des adorations, Ad-Du'a, l'invocation. Comme il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inna Ad-Du'a huwa al-ibada. Certes, Ad-Du'a, l'invocation, est l'adoration. Et une personne, lorsqu'elle se dirige vers un mausolée de Sidi Intel, Sidi Abdurrahman, Sidi Intel, Al-Badawi, Intel ou Intel, et qu'elle demande à cette personne, « Oh Intel, intercède auprès d'Allah Azzawajal pour moi. Oh Intel, demande à Allah Azzawajal pour moi qu'il m'accorde telle et telle chose. » Il le prend comme intercesseur entre lui et Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ceci est de l'adoration. La personne a invoqué cette personne. La personne a invoqué cette personne. Ceci est l'adoration. Cette personne qui est de base musulmane est venue invoquer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce mausolée. Ce wali, qu'elle pense être un wali. Et bien souvent, ayyuhal ikhwa, bien sûr, pour finir de détailler, comme nous l'avons détaillé dans des cours précédents, lorsque cette personne va dans ce mausolée pour invoquer cette personne directement, ceci est de la grande association du polythéisme majeur, shirk akbar, que Allah azza wa jalla ne pardonne pas pour celui qui meurt sur cela. Pour cette chose-là est de l'association majeure. Qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas lorsque cette personne meurt sur cela, sans, bien sûr, avant de mourir, sans avoir fait tauba, sans avoir s'être repenti sincèrement à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et lorsque cette personne, comme c'est le cas lorsque tu parles avec ces personnes qui pratiquent ce genre de choses, ils te disent, moi, je n'invoque pas, moi j'invoque Allah Azza wa Jalla seul, mais chez ce wali, il y a al-baraka. Quand je vais dans le mausolée de Intel, de Sidi Abdurrahman, de Sidi al-Badawi, etc., il y a al-baraka. Donc je vais là-bas, dans cette mosquée, où il y a enterré dans cette mosquée la tombe de Intel, etc. Et j'y vais parce qu'il y a al-baraka. Donc je vais faire l'amal salih, des œuvres pieuses, pour Allah Azza wa Jal. Dans mon cœur, je désire Allah Azza wa Jal simplement. Je n'invoque pas cette personne, mais dans cet endroit, il y a al-baraka. On a vu ce que c'était al-baraka. Et celui qui accorde à quelqu'un ou à un endroit le baraka, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Si toi tu imputes que dans tel endroit ou chez telle personne il y a le baraka, la bénédiction, que nous avons vu qu'est-ce que le baraka, tu as donné une spécificité à une chose ou à un endroit qu'Allah azza wa jalla n'a peut-être pas donné. Et ceci fait partie des spécificités d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui accorde le baraka à un endroit ou une chose. Et comme cela, toi, tu auras fait une innovation car il n'a pas été légiféré, tu n'as aucune connaissance que Allah Azza wa Jalla mis le baraka dans cet endroit, dans cette personne. Rajoute à cela le jugement de faire la prière dans une mosquée où il y a une tombe à l'intérieur. Rajoute à cela le fait de faire la prière dans un cimetière. Ceci, nous y viendrons un peu plus tard. Donc cette chose-là est une innovation. Et les ulama disent que cette chose-là est une veri'a ila shirk. C'est-à-dire que c'est une manière qui t'emmène vers l'association. C'est une chose qui t'emmène vers l'association. Ça fait partie des grands péchés de faire cela. Et bien souvent, pour terminer sur cela, ces gens qui sont prétendus des awliya, lorsque tu révises, et comme on l'a dit, l'histoire est très importante. L'histoire est très importante. Apprendre notre histoire, apprendre l'histoire des musulmans, une chose très importante. Lorsque tu révises l'histoire, dans les livres de biographie, des livres d'histoire, tu te rends compte que ces gens-là, qui sont enterrés dans ces endroits, parfois, la personne qui est soi-disant enterrée dans cet endroit ne l'est pas, comme par exemple la tombe de l'Hussein, radiyallahu anhu. L'Hussein, le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Ali et de Fatima, radiyallahu anhum ajma'in. L'Hussein est soi-disant, sa tête est soi-disant enterrée au Caire, dans une mosquée. Il y en a une autre, soi-disant en Irak. Il y en a une autre aussi à Damas, en Syrie. Trois tombes pour une seule personne. Al-Hussein, radiallahu anhu, est un compagnon parmi les autres compagnons. Il a des mérites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a évoqués. Ce n'est pas pour cela que nous allons l'invoquer en dehors d'Allah Azza wa Jalla, que nous allons invoquer Allah Azza wa Jalla près de sa tombe pour rechercher le baraka. En aucun cas, Allah Azza wa Jalla nous a légiféré cela, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté vers le fait de faire cela. Rajoute à cela le fait que le Hussein, nous ne savons pas où est-ce qu'il est enterré. Quand tu révises les livres d'histoire, tu ne sais pas. Et eux, ils prétendent qu'il y a une tombe de l'Hussein au Caire, une autre à Damas, une autre en Irak, etc. Comme cela, Al-Badawi, qui est connu. Il y a plus d'un million de personnes qui ramènent des bêtes à sacrifier tous les ans, pendant un anniversaire, donc une période annuelle, où ils se dirigent vers la tombe de l'Badawi, qui se trouve dans la ville de Tanta, en Égypte. Une tombe qui est très connue. Plus d'un million de personnes, vous vous rendez compte, un million de personnes qui ramènent des bêtes à sacrifier, qui vont faire des vœux pieux, qui ramènent des offrandes à cette tombe, qui ramène aussi, bien sûr, à chaque fois, vous trouverez, subhanallah, qu'à chaque fois, près de ces personnes-là, il y a des grosses boîtes pour faire sadaqa, quoi. Donc, tu viens, tu donnes ton argent. Et bon, pour les gens qui s'occupent de ces choses-là, ce sont des imposteurs, bien sûr. Ils s'occupent, soi-disant, de ces choses-là, ils nettoient, ils mettent des embellissements, des ornements, et ils récupèrent l'argent des musulmans sans droit, ils mangent l'argent des musulmans sans droit. Eh bien, plus d'un million de personnes qui vont annuellement faire des sacrifices, qui sacrifient pour Al-Badawi, ou qui invoquent Allah Azza wa Jal auprès de Al-Badawi en pensant que ceci est Al-Baraka. Cette personne, Al-Badawi, quand tu révises l'histoire, tu vois que cette personne était un chiite rafidi. C'est-à-dire c'est une personne qui, pour la vie de la plupart des musulmans, des savants de l'islam, ne fait pas partie des musulmans. Al-Rawafid, ce sont des gens qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt qui rendent mécréant la plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui insultent notre mère Aïcha, qui lui impute d'avoir fait wal'iyadu billah la fornication, qui disent que le Coran que nous avons entre nos mains, que nous lisons, n'est pas un Coran entier. Il n'est pas entier, nous avons enlevé des parties, même une sourate entière. Ce sont des gens qui, pour la plupart des savants, ils ne les estiment pas musulmans. Donc cette personne Badawi, vers qui plus d'un million de musulmans se dirigent chaque année, n'est même pas quelqu'un qui était musulman, pour la plupart des savants. Et cette personne-là, on dit de lui que c'est un wali. Une dernière chose, je terminerai sur cela, une histoire qui est rapportée par un grand savant qui est Cheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali, rahimahullahu ta'ala, un grand savant marocain qui est du siècle dernier. Donc certains de nos savants ont profité de lui. Cette personne, Cheikh Mohammed Taqiyuddin, rappelle une histoire qui lui est arrivée dans un de ses livres, où il rappelle des histoires qui se sont passées lorsqu'il est parti dans tel et tel pays pour faire da'wah, pour faire l'appel à Allah Azza wa Jalla. Il a rencontré une personne quand il est parti en Libye. Moi, je connais très bien des gens de Libye qui m'ont raconté cette histoire aussi, et qui m'ont raconté ce mausolée, l'histoire du mausolée de cette personne. Il y avait un shir soufi. Qui s'appelait Abdussalam Al-Asmar. Abdussalam Al-Asmar, dans une ville là-bas en Libye. Ce shir soufi, il avait bien sûr ce qu'on appelle des mourides, donc des gens qui sont des adeptes. Et ils avaient l'habitude de danser, à la manière de certains soufis. Ils avaient l'habitude de danser et de rentrer en transe. Quand on dit ils dansaient, ils rentrent en transe. Voilà, ils prétendent que ceci est une manière qu'ils ont de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et ce shir soufi, Abdussalam Al-Asmar, il avait un tambour qu'il prétendait être un tambour qui lui était descendu du paradis, et avec lequel Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu avait l'habitude de jouer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils avaient l'habitude de rentrer en transe en jouant de ce tambour, hein, lui et ses adeptes. Et ils avaient la prétention de ne pas travailler, ils avaient la prétention que Allah Azza wa Jal leur accordait leur subsistance sans avoir besoin de travailler, de rien faire. Et donc ils avaient un âne. Et cette âne avait une sacoche autour du cou, et il se baladait dans le village, et les gens, quand ils le voyaient, ils mettaient de la nourriture dans cette sacoche. Et à la fin, ils revenaient vers Absalam al-Asmar et ses adeptes. Donc ils avaient leur subsistance, quoi, ils mangeaient de cela. Et Allah Azza wa Jalla leur a fait ce qu'on appelle l'istidraj. Donc ils pensaient que cette subsistance était vraiment par le bien qu'ils pensaient faire. Quand il est mort, cette personne-là, Absalam al-Asmar, entre guillemets, cette personne, Absalam al-Asmar, on lui a regardé. Donc vous voyez quel genre de personne c'était. Une personne qui prétend avoir un tambour, venue du paradis, et une personne qui était dans une tarifa soufia, vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a édifié un mausolée qui ressemblait, si vous tapez Absalam al-Asmar, mausolée d'Absalam al-Asmar sur internet, sur Google, vous allez voir des photos, on dirait aussi grand, ce n'est pas aussi grand, mais on dirait avec le nombre de lumières, les ornements, comme la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette mosquée-là a été édifiée comme mausolée pour cette personne. Donc la tombe de cette personne était dans cet endroit-là. Et des frères libyens, qui après la révolution qui s'est passée, donc ils ont réussi à détruire ce mausolée, à rentrer dans ce mausolée, des frères que je connais, certains des amis à moi, qui sont rentrés dans ce mausolée, qui ont réussi à détruire cet endroit, qui était un endroit où les gens venaient faire du shirk, de l'association à Allah Azza wa Jal. Ceci c'est entre guillemets ce que je viens de dire. On dit, donc on nous a rapporté, que lorsqu'ils ont détruit ce mausolée, ils ont trouvé en dessous de la tombe d'Absalam al-Atmar beaucoup de des nœuds, à la manière donc des, comme vous savez, des sorciers, des nœuds, des photos aussi de certaines personnes. Donc ces personnes-là, vous le savez, quand ils vont voir le Sidi, ils ramènent une photo pour qu'un tel parmi ses enfants ait des enfants ou se marie, il rapporte une robe, mais la robe d'une telle pour qu'elle se marie plus vite, etc. Vous connaissez ces choses-là. Dans beaucoup de pays, c'est pratiqué ces choses-là. Faites bien attention à ceci. Et bien souvent de l'association Allah Azza du Shirk, ou en tout cas des grandes innovations. Ils ont trouvé beaucoup de ces choses-là. Quand ils ont brûlé cela, toutes ces choses qu'ils ont trouvées, ils les ont brûlées. À partir de là, beaucoup de gens sont venus les voir, des gens de la ville où il y avait cette personne, Absalam al-Asmar, sont venus les voir et leur ont dit, depuis 20 ans, je suis ensorcelé, depuis 20 ans, j'ai tel et tel problème, je viens d'être guéri par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est des frères qui m'ont rapporté ça directement. Ça, je ferme la parenthèse pour vous dire cette personne-là, Absalam al-Asmar. Quand il est mort, Absalam al-Asmar, ils ont... ces mourides, donc ces adeptes, sont partis chacun de leur côté. Il restait l'âne, qui restait tout seul, sans travail. L'âne, il continuait à se balader comme ça dans la ville, et les gens, ils continuaient à lui donner à manger, du foin et à manger, etc. Jusqu'à ce que cet âne mourut. Quand il est mort, les gens l'ont enterré dans un endroit. Et avec le temps, du fait que c'était l'âne, un âne moubarak, un âne béni, avec le temps, les gens, ils ont commencé à oublier, à venir faire des adorations à l'endroit où il y avait cette âne qui était enterrée, jusqu'à ce que les gens ont oublié, jusqu'à ce que les gens sont venus adorer cette âne, c'est-à-dire le mausolée, l'endroit où cette âne était enterrée, comme on le fait, ou comme il est pratiqué dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de mausolées où ils vont adorer Sidi Foulen. Quand je dis adorer, encore une fois, je parle par exemple de l'invocation, de un, qui est, comme l'a dit le prophète Hassan, inna du'a huwa al-ibada, l'invocation et l'adoration. À partir d'une personne, on va demander à un tel, Yassidi Foulen, donne-moi ça, demande à Allah qu'il demande ça. Ceci est de l'adoration. La personne a adoré cette personne qui est morte à cet endroit. Regardez jusqu'où va l'ignorance des gens et l'idiotie des gens jusqu'au fait qu'ils vont adorer un âne. Un âne. Wa illa huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.